Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Résonance vous invite au cours de cette nouvelle émission et de cette nouvelle saison à partir à la découverte de ces territoires, de ces acteurs qui au quotidien travaillent, inventent, initient des projets artistiques à partir de cette question: comment la création sous toutes ses formes peut être le moteur de la rencontre, du faire ensemble, du vivre ensemble. Au sommaire de cette émission, dans quelques minutes, j'aurai le plaisir de recevoir dans le studio de Radio Tropique Lê Quan Ninh, de passage à Bourg-en-Bresse cette semaine, improvisateur, percussionniste. Il est l'invité du collectif Ishtar pour une conférence « Le silence de John Cage » et des concerts. Il est accompagné par Tony Di Napoli, plasticien, musicien, improvisateur, et Eddie Kowalski, membre du collectif Ishtar, saxophoniste, improvisateur et plein de choses en même temps aussi. Puis, dans la dernière partie de cette émission, vous découvrirez une nouvelle rubrique proposée par Gérard Bonnefond, qui sera en direct avec nous depuis Paris. Mais pour l'instant, nous retrouvons parole d'auteur, parole de compositeur. On apprend la vie. C'est une musique mouvante, en mouvement comme l'homme. Un moment unique et vrai. Tant pis pour les ratages, c'est inclus aussi. Cela fait partie du jeu. C'est une aventure et un partage avec les musiciens. C'est un voyage dans le présent et dans le temps. On joue, chacun, chacune, bien différente évidemment, avec sa vie, son histoire, ses goûts, ses choix. L'improvisation, c'est une rencontre précise et précieuse, mais aussi une musique d'individus qui ont choisi leur chemin, leur liberté, et qui prennent tous les risques. Joël Leandre.
Thank you.
résonance sur Tropic FM. Nous venons d'écouter Grand Duo Concertant, une improvisation de Joël Léandre et de Bart Phillips. Alors bonjour Li Kuan-Nin.
Bonjour.
Bonjour Tony Di Napoli.
Bonjour.
Et bonjour Eddie Kowalski.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir donc dans cette nouvelle émission de résonance, au cours de laquelle nous allons nous immerger en votre compagnie dans l'univers en effervescence de la musique improvisée. Alors, ce que nous venons d'entendre, grâce à ces deux interprètes, de Joël Léandre et Bart Phillips, nous montre aussi que c'est un acte vivant de faire de la musique, que c'est aussi une rencontre avec l'autre, aussi peut-être de soi aussi, à travers l'autre. Et Joël Léandre posait encore les mots suivants lorsqu'elle évoque l'improvisation. Conscience de la vie, attitude au monde, regarder les sons, voir le multiple, trouver une couleur, aller vers l'autre musicien, devenir un peu l'autre. Alors on sait que les définitions sont aussi nombreuses, multiples, diverses. Finalement, elles correspondent aussi à chacun des individus qui est en jeu, de sa sensibilité, de ses esthétiques. Et puis peut-être aussi dépendre de l'endroit où on se place par rapport à tout ça. Alors est-ce un genre, une pratique, une hygiène de vie, une philosophie? Pour vous, Li Kuan-Nin, qu'est-ce que ce serait, je dirais, la musique, peut-être même avant tout, autre, de votre point de vue par rapport à ça?
C'est une grave question. Il est peut-être très difficile à tout d'un coup
aborder
immédiatement. Moi, je dirais qu'à titre personnel, je ne sais toujours pas pourquoi je fais de la musique, malgré tout. C'est une question permanente. Et peut-être qu'il est d'ailleurs tout à fait inutile d'aller...
D'aller plus loin, peut-être aussi.
Oui, de chercher une réponse, il y en a une. Parce qu'en fait, finalement, cette question, elle permet d'accompagner le flux de la vie, peut-être celle dont parlait Joël Léandre. Et qu'on y découvre des choses. En tout cas, c'est une fabuleuse... non pas un prétexte, mais un formidable... une opportunité, une occasion en tout cas pour rencontrer des personnes, rencontrer des lieux aussi.
Oui.
C'est pas seulement uniquement de musicien à musicien ou voir quand c'est en public de musicien au public, de musicien vers le public, etc. Mais c'est aussi le lieu. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu? Qu'est-ce que c'est qu'un volume d'air? Parce qu'il faut quand même jamais oublier que la musique c'est entre autres des, avant tout, je dirais à la toute base, c'est de l'air en vibration. Donc à différentes fréquences, et que donc notre outil en tout premier c'est l'air, qui est donc mise en vibration par des instruments de musique.
Et donc
ou par
suivant les lieux, on n'a pas ce même rapport.
Exactement.
Effectivement,
et donc l'instrument c'est le lieu lui-même au bout d'un moment, une fois qu'on a suffisamment, je dirais, de proximité avec son instrument, si on le travaille depuis très longtemps, on finit par l'avaler. Et donc il ne pose plus trop de problème, c'est toujours soi le problème.
Je sais que Joël Léandre, elle disait, voilà, c'est mon tracteur, un peu ma contrebasse, puis à partir de là, voilà, les choses se labourent, elles poussent, mais en même temps, voilà, oui, à dépasser aussi ce rapport-là.
Oui, tout à fait, et donc c'est là où justement les choses sont très difficiles à définir, parce que ce qui se joue, et je dirais ce qui se joue même avec une acception ludique du mot, évidemment, parce qu'il ne faut jamais oublier cette dimension, même si ce jeu peut être grave. Mais c'est quand même un jeu, c'est un jeu avec les éléments, c'est un jeu avec là où on en est, chaque personne vient là où elle en est aussi. Donc chaque personne qui est présente là dans le moment de l'improvisation, qu'elle joue d'un instrument ou qu'elle écoute, ou les deux en même temps, bien évidemment. chacun est là où on en est. Ça, c'est complètement... on ne doit surtout pas contrôler ça. C'est vraiment...
Je trouve que c'est vraiment très important. Alors, tout à l'heure, effectivement, j'ai dit, est-ce que c'est un genre? Est-ce que c'est une pratique? Voilà, il y a toujours cette tentative, on va dire, depuis longtemps, parce qu'on sent bien aussi que l'art, en tout cas dans une société, c'est pas innocent, et que, bien sûr, le rapport au pouvoir, le rapport au fonctionnement sociétal, etc. Alors, le fait que peut-être... Effectivement, et je suis assez proche de ce que vous dites aussi par rapport à tout ça, en disant que c'est peut-être aussi c'est pour cette raison aussi, c'est un fait indéterminé finalement, de rester dans cette interdémitation des choses, qui fait que quelquefois, cette pratique, si on peut dire, en même temps, on a du mal, en tout cas l'esthétique générale, artistique, culturelle, a du mal à l'identifier, parce qu'on ne peut pas lui coller une étiquette finalement.
Ah oui, absolument, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'artistes improvisateurs, et parce qu'il y a, faut penser que l'improvisation n'est pas uniquement que musicale, hein. Il y a des danseurs improvisateurs, il y a aussi des acteurs improvisateurs, il y a aussi des peintres improvisateurs, bref, des vidéastes, des cinéastes, etc. Bon, eh bien, il y a donc certains artistes qui, improvisateurs qui ont une très forte conscience du résultat.
Oui, c'est ça.
Et puis il y a d'autres artistes qui sont beaucoup moins, je dirais... intéressé par le résultat en tant que résultat. C'est-à-dire que on ne fait pas une chose pour... Donc le résultat n'est pas la fin, en fait.
C'est pas la finalité.
Voilà, c'est plutôt un processus qui est à la fois un processus, comme disait d'ailleurs très bien Joëlle, qui est plus un processus de vie, qui passe à travers une pratique artistique. Mais donc c'est un processus, et en fait la qualité de la réalisation, donc on pourrait dire le résultat finalement, parce qu'il y en a quand même un, le résultat provient de la qualité qu'on en a mise dans ce processus de travail et d'émission des sons et de silence. Donc, et la qualité provient, à mon sens, non pas d'un acquis ou d'un acquis, je veux dire, technique ou d'une virtuosité affichée, mais il est plus dans l'attention et donc dans le fait que chaque personne prend soin de ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et donc, prendre soin, ça veut dire être réellement, profondément à l'écoute de ce qui se passe et surtout de ne jamais se sentir propriétaire de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment quelque chose... on est en fait, bien que l'on doive mettre en route, une certaine... une certaine technicité, le fait qu'on utilise un instrument, par exemple, c'est quand même...
Tout à fait. Il y a une certaine technicité qui est là en jeu pour pouvoir...
Oui, obligatoirement, je veux dire, bien sûr, parce que puis un instrument est, on dirait aujourd'hui, une interface, d'ailleurs, d'une extraordinaire flexibilité, et il faut bien quand même se coltiner cette interface,
entre guillemets, là, s'improviser.
Tout à fait, absolument. Donc, exactement, je crois que le fait que l'improvisation ne s'improvise pas, c'est au-delà, évidemment, de la chose, de l'aspect amusant de la phrase. C'est très sérieux parce qu'en fait, je considère vraiment l'improvisation comme une discipline. Une discipline comme peut l'être un art martial, par exemple. C'est-à-dire, c'est une discipline, c'est quelque chose ne fonctionne que par... l'expérience et la pratique. On ne peut pas uniquement y penser et penser qu'on va pouvoir faire ci et faire ça. Non, puisque la vie est plus forte que tout. Et que la vie va se manifester de toute façon dans le cours d'improvisation, du fait qu'il y ait plusieurs personnes, quand on est plusieurs personnes, du fait qu'il y ait tel lieu, comme je disais, tel endroit dans lequel on est, et puis l'état dans lequel on est. Donc la vie va se manifester, même si on pense que l'on va contrôler les choses.
Je m'en contrepoint à Michel Deneda, mais là il se rejoint avec ce que vous venez de dire aussi. Il dit que l'improvisation musicale consiste d'abord en disposition de son, en organisation d'espace aussi, et de temps singulier, ainsi que des différentes manières d'être ensemble ou séparés. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez par rapport à la philosophie de vie. Et peut-on pour cela faire une analogie avec nos façons de vivre collectivement en société? N'est-ce juste qu'une représentation artistique de nos façons de vivre, de notre idéal de vie?
Oui, moi je pense qu'il faut laisser la question en suspens, ouverte absolument, c'est-à-dire que c'est une question qui apparaît souvent. Moi je n'ai pas la réponse, ça serait très, très pratique de l'avoir d'ailleurs cette réponse, mais je pense que si on avait la réponse, on figerait peut-être un peu la pratique elle-même.
On arriverait à une pratique déjà un petit peu formalisée, comme on voit dans d'autres styles musicaux, va parler de jazz, du blues, qui ont également leur intérêt, mais en même temps, leur fermeture. Alors on peut toujours trouver l'ouverture dans la fermeture, mais... on laisse plus les choses au même endroit.
Je crois que malgré tout, c'est vrai qu'il y a peut-être une différence avec les pratiques de l'improvisation dite libre. Hein, c'est celle dont on parle ce matin.
Ouais.
Parce qu'il y a bien sûr bien d'autres formes d'improvisation. Mais celle qui est dite libre, d'ailleurs, on pourrait revenir un peu sur ce terme, parce que ça paraît extraordinairement ambitieux, évidemment, celui de la liberté. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être libre? C'est aussi une question permanente, constante, et qui soutient constamment notre travail, qui parfois le soutient, ou parfois ne le soutient pas du tout, ou parfois, nous met dans un tel doute qu'on se demande vraiment si on va continuer à faire ça, on ne sait plus, on ne sait plus trop. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a des formes effectivement qui semblent plus, disons, plus repérables hein, dans leur forme globale. Mais malgré tout, la différence, je dirais, entre ces formes et l'improvisation libre, donc, c'est que les pratiques de l'improvisation libre sont assez particulières puisque d'emblée, si vous voulez, elles, à partir du moment, bien sûr, où on lâche cette idée qu'un résultat doit être obtenu, ça c'est quand même la clé, eh bien, il y a en fait le dépassement immédiatement là. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si on écoute Thelonious Monk, par exemple, au piano.
Tout à fait.
C'est un pianiste de jazz. Mmh. Hein, il a accompagné tout le mouvement du bebop. Mmh. Mais malgré tout, quand tout le monde écoute Thelonious Monk, on ne se dit pas « c'est un pianiste bebop ».
Tout à fait.
Il
dépasse complètement.
Voilà. Si j'écoute le pianiste classique Grigory Sokolov jouant Beethoven ou Schumann, on ne se dit pas « tiens, voilà un pianiste qui joue Beethoven et Schumann ». On est dans un état...
Il y a autre chose qui transparaît,
voilà,
justement.
Absolument. Donc, il y a une sorte de dépassement aussi, de, je dirais, du médium par lequel il passe. Hein. Tandis que dans ce qui est curieux avec l'histoire de l'improvisation libre, c'est qu'on n'a rien à dépasser. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le dépassement. Alors, des fois, c'est un dépassement vers le bas. Mmh. Hein, des fois, on peut, comme dit, elle appelle ça des ratages. Moi, j'appelle ça quand on échoue à être en contact avec ces choses précieuses qui est peut-être ce qu'on appelle la poésie. Je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose qui est en soi et qui est aussi partagé communément. Et quand on perd contact, là, on échoue. Mmh. Mais c'est à la fois un dépassement, je dirais, du médium lui-même, mais qui passe par tous les côtés, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche.
Résonance sur Tropic FM, là, Lee Kuan Yin, qu'est-ce que... Voilà, il y avait plusieurs personnes.
C'est ça, nous n'étions que trois musiciens. Donc il y avait Martin Altenberger au violoncelle, Tiziana Bertoncini au violon et moi-même à la percussion. C'était l'extrait d'une improvisation que nous avions donnée dans le cadre d'un concert de l'ensemble Hiatus. Là, on n'était que trois, le 20 octobre 2007 au Festival Sonorité à Montpellier.
Voilà, un ensemble justement qui se consacre, hein, qui développe depuis plusieurs années ce travail d'improvisation justement, en multipliant les rencontres.
En tout cas, c'est un ensemble d'improvisateurs, mais on interprète aussi beaucoup de musique du répertoire et on suscite de nouvelles œuvres aussi. Donc en fait, cet ensemble avait été créé justement pour pouvoir faire... présenter des concerts qui mélangent des pièces écrites et des pièces improvisées, complètement librement improvisées, et sans interruption. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption entre les pièces, on passe d'une pièce écrite à une improvisation, à une autre improvisation, une pièce écrite. C'est une heure et quart de musique ininterrompue. Et la particularité de l'ensemble, c'est qu'on ne donne pas le programme non plus.
On le dit
à la fin seulement.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est aussi emmener le spectateur dans tout un chemin.
C'est-à-dire qu'on préfère partager un moment d'écoute plutôt que de venir brouiller cette écoute par des références.
Par des références et d'être des gens qui ont plein d'autres choses.
Bien sûr, qui sont évidemment absolument indispensables aussi. Mais plutôt que... Vous savez, c'est venu du fait que quand on va dans une galerie, dans un musée, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 99% des personnes vont d'abord voir l'étiquette à droite du
le
tableau.
Cartel, voilà,
et puis ensuite, regarder le tableau. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça toujours bizarre de ne pas d'abord vraiment voir le tableau.
Absolument,
voir
c'est bien essentiel.
Et,
c'est Picasso qui disait d'ailleurs le tableau existe par le regard de celui qui vient à la rencontre de ce tableau avant une explication. Et même lui se posait, justement, comme vous le posiez tout à l'heure, est-ce qu'on doit... expressément expliquer un tableau. Voilà.
C'est-à-dire que moi je pense que c'est intéressant, c'est qu'il faut cesser justement de séparer les choses. C'est-à-dire que moi je pense que le discours n'est pas séparable de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est un même mouvement. Simplement, il ne faudrait pas que le discours prenne
plus
d'importance que l'œuvre. Quoique, il y a des œuvres qui ne sont que discours aussi. Hein, parce que dans l'art contemporain, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut plus dire ça c'est juste, ça c'est pas juste. Il y a une telle diversité de démarches qu'il y a des œuvres qui ne sont que discours. Et ça, c'est aussi très troublant et c'est toujours plein de surprises. On peut en débattre, enfin, en tout cas, c'est vivant.
Peut-être je vais me tourner vers Tony Di Napoli et puis Eddie Kowalski. On vient d'évoquer déjà un petit peu tout ce rapport. Ce chemin, cette expérience justement de se rendre compte d'une manière de faire cette musique et de faire exister justement ça. Pour vous, un peu, comment ça se passe aussi ce rapport-là? Comment ça s'inscrit aussi pour vous dans ce rapport à l'improvisation, improvisation libre, improvisation avec cette matière sonore?
Je crois qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'esthétique qui permette de dire l'improvisation est comme cela, est faite comme cela. Et donc il y a vraiment plusieurs approches possibles, plusieurs courants à l'intérieur. Ce qui réunit les gens, je pense, j'ai un peu répété ce que disait Nin, mais c'est vraiment de développer déjà un travail personnel, un discours personnel. Et la rencontre et faire avec croiser les disciplines, croiser d'autres artistes et l'improvisation naît vraiment de ces rencontres quoi. Sur l'idée du résultat aussi, je suis assez d'accord avec Nin sur le fait qu'il ne faut pas essayer d'avoir des attentes avant d'improviser. Et quand on est libéré des attentes, on est plus dans la vibration. Et ce qui est important, c'est le jeu et d'être en état vibratoire, quelque part. Et du coup, on est plus...
On est plus focalisé sur l'action que dans
l'idée de produire un résultat. Et du coup, on est dans quelque chose qui nous dépasse et
Limite finalement qu'on cherche, quoi. Cet espace-là, justement, qu'on essaye de retrouver, ou en tout cas d'approcher.
Exactement. En tout cas, c'est quand on atteint ces limites qu'il se passe des choses.
Voilà, c'est ça. Et pour vous, Tony, alors
Ben moi, en fait, ce qui m'intéresse dans l'improvisation, c'est surtout le rapport au présent. Mmh. En fait, cet instant où il se passe des choses, en fait. C'est... Si je commence, en fait, à penser, c'est là que je...
Ou que, du coup, t'acceptes.
Oui, ouais, c'est ça. Là, c'est là que je me plante, en fait. C'est vraiment cette confiance, en fait, avoir dès le début du concert où on se détend et on écoute ce qui se passe. Et puis, on vit aussi et puis ça se déroule tout seul, en fait. C'est aussi un rapport avec le corps et l'instrument. Donc c'est le corps qui fait le son. Et puis c'est pas la tête, c'est tout un ensemble.
Puis en même temps, je sais que dans les instruments que vous utilisez, il y a un rapport, on parlait de la vie, on parlait des espaces, des lieux particuliers qui deviennent aussi des sources. Il y a un rapport très direct aussi dans votre travail, dans le fait où la pierre, ce rapport au minéral finalement, est aussi une source de ce travail d'improvisation, d'invention et de cette science du présent. Hein, c'est aussi science de l'instant présent aussi à un moment donné. Donc du coup, ce choix aussi de cette matière, enfin je sais qu'il n'y a pas que celle-ci, mais c'est quand même un axe principal de votre travail.
Ben, le choix de la pierre, donc au départ, donc je suis sculpteur, donc j'ai travaillé la pierre en beaux-arts, et puis donc j'ai envie de savoir quels sont faisait cette pierre, et puis donc un travail qui s'est développé depuis 1994 autour de la pierre, mais ce rapport physique aussi, donc d'abord à la matière, à l'instrument et au son. Donc je travaille sur des fréquences, parce que des sinus purs, en fait, donc, qui réagissent avec l'espace. Donc, donc les pierres sont accordées en microtonal, donc ça produit des battements. Donc, donc ces sons sont envoyés par les murs. En fait, donc l'espace fait aussi partie de la caisse de résonance. En fait,
c'est ça.
Et ce rapport vraiment aussi physique, donc déjà les vibrations que je reçois.
Les vibrations reçues,
que je reçois déjà,
par très fortes.
Et aussi comment le public aussi perçoit donc, les sons qui
ce qui emmène dans un autre type d'écoute, on évoquait le résultat tout à l'heure, mais du coup ça emmène aussi peut-être le spectateur à venir autrement finalement et découvrir, on a l'habitude voilà, d'avoir des choses assez normées, je vais au concert, je vais à tel endroit, je sais ce que je vais avoir, je sais ce que je vais entendre, quelquefois je peux prédéterminer déjà, alors quelquefois j'ai des insatisfactions parce que j'aurais aimé entendre peut-être ce que... Là on propose totalement autre chose finalement comme chemin.
Oui, bien sûr. Puis le lieu aussi, c'est important, comme disait Nine, en fait, l'acoustique du lieu. Nous aussi, des fois, c'est perturbant, parce qu'on arrive, on est habitué, par exemple, on travaille à l'atelier, puis il y a une certaine acoustique, et puis on joue dans un tel lieu, puis un lieu qui ne sonne pas, pareil. Ouais. Donc là, c'est un peu perturbant, en fait, pour nous, donc on doit vraiment se détendre et écouter ce qui se passe à ce moment présent et pas se dire, voilà, ça sonnait comme ça.
Ça sonnait comme ça, il faut que je refasse ça devait être.
Ça, c'est des choses, en fait, qui sont aussi qu'on doit toujours être vigilant et en action, en fait, dans cette pratique.
Je dirais aussi, avec le collectif Ishtar, ce qu'on organise, on essaye de penser des différentes approches pour amener le public dans différentes situations. Et donc... par exemple, on a développé le Courant d'art, qui est un festival de musique improvisée, pluridisciplinaire, avec la danse, d'autres arts. L'idée avec ce festival, c'est justement, on n'est plus dans une salle de spectacle, déterminé en tant que tel. Donc déjà, l'auditeur n'est plus dans le même état d'esprit. Donc là, on les emmène dans des sites naturels, il faut faire des balades, des marches. Tout ça contribue à mettre les gens dans une certaine disposition pour recevoir. Et je pense que c'est important qu'il y ait aussi cet aspect qui soit développé parce que souvent, pour des personnes qui n'ont pas...
Pas forcément l'habitude,
d'écouter ces pratiques expérimentales. Arriver de but en blanc dans une salle, dans un processus classique, arriver dans une salle, payer son entrée, s'asseoir à sa place, on attend. Déjà, on a une attente qui est très forte. Et du coup, suivant les propositions, ils peuvent ressortir du concert en ayant toujours ces attentes. Parce qu'ils ont vu des instruments avec des lutriques, ils ont vu un saxophone, ils veulent entendre le son du saxophone. Pas de chance.
C'est pas du tout ce qu'ils
auront. Le musicien n'a joué, il n'a fait que des souffles, par exemple. Et voilà, je pense que aussi ce rapport-là est très important.
Oui, on retrouve comment faire non pas que ça devienne déstabilisant, mais comment l'inattendu, l'imprévisibilité, comment ça aussi peut devenir source finalement. Je sais aussi que sur votre festival en Creuse, Nine, vous avez aussi cette attention, je dirais, vis-à-vis d'un public aussi, et de comment aller à sa rencontre, ou en tout cas de comment l'accompagner peut-être à se rendre disponible finalement à la proposition qu'il va découvrir.
Oui, en tout cas, on essaye. C'est vrai qu'on est. Donc, moi, je vis en Creuse, et en plus, dans une partie du département qui est vraiment
très rurale.
Très rurale et vraiment très. Avec très peu de population. Enfin, de toute façon, la Creuse est le deuxième département le plus dépeuplé de France, avec, d'après Wikipédia, 22 habitants au kilomètre carré. Donc, ça, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, effectivement.
Donc, et puis, qu'il y a, évidemment, il semble en tout cas qu'il y ait eu très, très, très peu de traces de ces pratiques musicales, qu'elles soient celles de la musique écrite contemporaine ou de la musique improvisée. Donc, à nous de faire ça. Donc, effectivement, on prend soin de simplement de partager les choses, c'est-à-dire que c'est pas tant. Bien sûr qu'il y a une forme de pédagogie, bien sûr, mais.
Mais c'est pas la pédagogie pour la pédagogie, quoi.
Oui, c'est ça. C'est juste vraiment, comme je disais, c'est très simple. C'est vraiment, on essaye de partager des moments d'écoute. Donc on fait tout pour que cette écoute soit, je dirais, la plus simple possible, en fait. Hein, mais c'est vrai que malgré tout, on en est bien évidemment encore à. Parce que donc on organise un festival depuis cette année, mais on organise des concerts régulièrement depuis bientôt 5 ans. Je sais que là au festival, il y avait vraiment beaucoup. Il y a eu un concert où les gens s'attendaient vraiment à quelque chose.
Voilà.
C'était le clarinettiste Joris Ruhl qui jouait avec la pianiste Eve Risser. Donc ils avaient vu piano et clarinette.
Ils se sont dit voilà.
Et puis finalement. Deux pianos et deux clarinettes. en tout cas, on a entendu des sonorités absolument extraordinaires. Et c'était un concert absolument extraordinaire, mais qui a évidemment laissé ce public complètement novice, vraiment tout à fait novice, dans un questionnement. Mais c'était très beau, justement, ce questionnement-là. Ouais. Parce que là, en tout cas, on avait à nouveau quelque chose de très vivant. C'était plus bon, on a eu ce qu'on cherchait. Je veux dire, pour avoir ce qu'on cherche, il suffit d'aller au supermarché. Bon, je veux avoir une boîte de céréales, je prends telle boîte de céréales. Mais dans l'histoire de l'art, dans l'histoire d'aller écouter de la musique, si justement on va écouter Grigori Sokolov jouer Schumann, il va sans doute pas jouer comme Pollini.
Donc, c'est évident.
Donc, même si on va reconnaître la forme, malgré tout, chez quelqu'un comme Sokolov, il y a quelque chose d'autre qui se passe.
Il y a au-delà de
voilà. Donc,
de l'écriture.
Par contre, si on enlève la forme que l'on connaît, tout d'un coup, il n'y a plus que, finalement, cette chose un peu indicible qui est ce rapport vibratoire, et effectivement, avec le lieu, avec des sonorités absolument souvent étonnantes et qui proviennent d'une écoute, je dirais, très large du quotidien.
Du coup, au travers de cette improvisation libre, c'est peut-être aussi ramené à que pour le moment on a beaucoup de mal, parce qu'après la société, son organisation, sa manière aussi de se développer, même si elle change bien sûr d'époque en époque dans ses modes de faire, on sent bien toute la prégnance de ce que peut être l'expression de l'individu, quel qu'il soit, et la singularité de cette expression. Et donc du coup, d'être obligé de la catégoriser, de la maintenir dans des cadres et autres. Et peut-être au travers de cette pratique, d'une part, ça peut permettre peut-être à des publics les plus variés possibles, qui quelquefois aussi se sentent « est-ce que c'est pas fait pour moi ?» Finalement, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et donc du coup... Alors, sans parler de la musique improvisée, mais on pourrait parler de la musique classique, on pourrait parler d'autres types de musique qui, souvent, pour certaines personnes, se disent « c'est pas forcément fait pour moi ». Alors, peut-être qu'avec aussi cette simplicité, justement, de chacun, finalement, face aussi à ce qu'il peut dire, à cette prise de parole, finalement, c'est peut-être redonner des clés aussi, petit à petit, à l'ensemble de la population, qu'elle a sa parole aussi à dire, qu'elle a une manière de rencontrer d'autres qui osent dire aussi sous certaines formes, et qui ne correspondent plus forcément à la doxa ou au dogme artistique en jeu. Donc, peut-être aussi une des raisons pour que... Alors, ce courant est très fort. Il se passe beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, vous en êtes en plus des acteurs très importants et aussi nombreux aussi qui font ça. Mais on sait que c'est pas... On n'entend pas ça régulièrement sur, bien sûr, les médias. On n'entend pas... On va pas forcément voir, à part certaines revues, parce qu'elles y portent des attentions. C'est peut-être aussi parce que ça draine autre chose, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce registre-là?
Écoutez, moi, je pense que, justement... Enfin, c'était un questionnement aussi. C'est un questionnement, en tout cas, qu'on met en pratique.
En pratique, ouais.
C'est que toutes ces, on pourrait dire, soit ces incompréhensions ou ces complexes ou, qu'on pourrait avoir, ça, ça vient du fait que les pratiques artistiques sont devenues des pratiques culturelles.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est de la culture. Et quand ça devient de la culture, on s'éloigne, bon, c'est un vieux débat, de ce que pourrait être la nature. Bien sûr qu'on ne sait pas ce que c'est que la nature, on est tout le temps en train d'inventer ce qu'elle est. On ne sait pas exactement ce qu'elle est, c'est encore, encore une fois aussi une question permanente. Mais cette question-là, on doit vraiment pouvoir l'interroger, vraiment.
Elle me semble essentielle.
Voilà, ne pas s'éloigner de la nature via la culture, mais d'utiliser la culture pour revenir vers la nature. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la nature ? Donc, je disais, on ne sait pas. Mais moi, je reviens donc à une chose très basique, très triviale, très banale. Bon, OK. Certaines musiques semblent effectivement perturber certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de l'entendre. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que la musique ? Avant que ça fasse de la musique.
Avant de la musique, oui, c'est ça, c'est la question prioritaire finalement.
Ah, mais oui, complètement. Et donc là, on revient à, si très objectivement, la musique, elle est faite de quoi ? De son et de silence. Qu'est-ce que c'est que le son et le silence ? Alors, on l'expérimente en tant qu'artiste. C'est peut-être notre rôle, justement, d'expérimenter ça. On expérimente et on s'aperçoit que le son et le silence, ce sont deux phases d'un même phénomène. C'est quoi ce phénomène ? C'est de l'air en vibration. Quand l'air est peu vibrant, c'est le silence.
C'est le silence.
Quand l'air est très vibrant ou un peu plus vibrant, c'est le son. Et donc, on en revient, si vous voulez, à quelque chose de fondamental avant toute culture. On en revient à qu'est-ce que c'est que des sons qui sont transmis dans l'air. Donc, à partir du moment où on revient à ça, on est avant la culture. Donc, on est avant toute forme, je dirais, de complexe qu'on pourrait,
qu'on pourrait avoir.
Par rapport à la culture. Et donc, c'est, même des musiques qui sont dites difficiles, et je me demande par qui d'ailleurs...
Quelle place on se trouve pour pouvoir dire que c'est
absolument. Voilà. Eh bien, c'est vraiment la manière dont on les présente. Si on les présente de manière que chacun, absolument, si on fait confiance que chacun a gardé suffisamment de sensibilité pour ressentir la vibration d'air, c'est-à-dire évidemment un aspect incroyablement organique et que chacun peut sentir et que on a senti dès qu'on était dans le ventre de notre mère, c'est-à-dire l'histoire, vraiment le caractère vibratoire, on en revient à un an de ça, si vous voulez, duquel après on peut échafauder une culture si on veut. Après, pour finir sur l'histoire de la nature, c'est qu'est-ce que serait la nature pour nous ? Peut-être qu'on peut juste s'interroger sur une chose très simple, mais qu'est-ce que c'est que la nature de l'écoute ? Qu'est-ce que c'est que notre nature de l'écoute ? Qu'est-ce qu'on est quand on écoute ? Qui on est quand on écoute ? Qui écoute quand on écoute ? Qui écoute, c'est-à-dire quand on écoute soi-même. Et donc, ça paraît des questions philosophiques, mais simplement, c'est simplement des manières de ramener à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, primordial, plus essentiel que ça fait telle musique, ça qui veut dire ça, exactement. Qui veut dire ci, qui porte tel flambeau, etc. J'écoutais une émission l'autre jour sur Verdi et Wagner, qui avait donc un grand sens des valeurs nationales, tout ça. Moi, tout ça, ça me parle évidemment très, très peu.
Bien sûr.
Je pense qu'on peut, bien sûr qu'il y a des musiques qui soutiennent des grands thèmes, là, comme ça, qu'on considère comme des grands thèmes.
Oui, qui peuvent se trouver, c'est
fondamental. Mais moi, je considère que c'est un extraordinairement grand thème quand chacun peut tout d'un coup se poser la question, avec des mots ou pas, de qu'est-ce que j'ai écouté, quelle expérience j'ai faite quand j'ai écouté tel type de sonorité, qu'est-ce que le son a fait.
Thank you. Résonance sur Tropic FM. Là, cette fois-ci, d'autres musiciens,
un autre lieu, mais on retrouve trois des musiciens qu'on a écoutés tout à l'heure. Donc, c'était Martine Altenberger au violoncelle, Tiziana Bertoncini au violon et moi-même à la percussion. Mais il y avait en plus l'ensemble Hiatus ce jour-là en entier avec Karl Ludwig Hübsch au tuba, Géraldine Keller à la voix, Thomas Lehn au piano, synthétiseur analogique, Thierry Madio au trombone, Joris Rull à la clarinette et Angelika Sheridan à la flûte. Donc une improvisation à neuf.
Ouais, très beau moment aussi. Hein. Très beau moment.
Et dans le lieu, c'est un lieu particulier, c'est la Kunststation Sankt Peter de Cologne, donc la station d'art de Saint-Pierre de Cologne, qui est une ancienne église, qui est encore sacrée puisqu'il y a encore des offices, mais qui est dévouée à l'art contemporain et aux musiques contemporaines. Mais bien sûr, il y a donc une acoustique assez réverbérante.
Oui, on entend.
Donc, bien sûr, donc bien évidemment, on joue avec cette acoustique.
C'est-à-dire
qu'on on peut à un moment donné vouloir saturer l'espace, mais malgré tout, on a un jeu comme ça en va-et-vient pour voir ce que ça fait. Puisque bien évidemment, on va être constamment perturbé, mais dans le sens ludique du terme, par le renvoi de la réverb, et donc il y a ce jeu. Donc, et puis comme en tant que musicien, on aime entendre, donc on essaye d'entendre ce que l'on fait. Donc, et la réverb ayant aussi donc donc sa définition, c'est une résonance et un délai. Bien, on attend d'entendre ce que ça fait avant de pouvoir peut-être
rebondir.
Puis comme on joue à neuf, c'est déjà, ça commence à être beaucoup pour improviser. Donc c'est un peu comme la part du gâteau. Si on est deux pour manger un gâteau, on a une plus grosse part. Mais si on est neuf, on a une part plus petite. Donc c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à neuf, on va partager la circulation des sons entre nous et pour éviter la foire d'empoigne, même si. Parce que ce n'est pas un jugement esthétique, même si la foire d'empoigne peut être aussi extraordinairement une manière très intéressante. Et il y a eu une époque qui est peut-être un peu révolue aujourd'hui, mais qui était justement, et qui portait, là, on parlait juste avant de ce que la musique pouvait porter aussi, même à la fois au niveau politique, en tout cas quand elle est vraiment inscrite dans la culture ou les cultures, etc., de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu une époque où les musiciens de musique improvisée étaient beaucoup plus, je dirais, en rupture vraiment avec l'académie.
C'est sûr, tout à fait.
Et ils n'hésitaient pas à saturer l'espace complètement parce qu'il y avait aussi des revendications politiques, sociales, qui n'étaient pas forcément explicitement dites, quoique. Il y a eu des gens qui ont vraiment des musiciens
qui ont porté le discours.
Mais c'était aussi un souffle. Il fallait bâtir des barricades et envoyer quelques pavés, quoi. Donc, c'était
une nécessité à ce
moment-là. Ceci dit, la nécessité me paraît tout à fait, encore aujourd'hui,
peut-être aussi d'actualité.
Mais malgré tout, on est peut-être devenu plus musicien qu'avant, je dirais. Je sais pas quoi. Peut-être, des fois, je regrette un peu aussi.
Un peu ces moments-là,
Le fait que de s'être rapproché, finalement, de ce dont je parlais avant, c'est-à-dire de se rapprocher un peu du fondamental, peut-être que dans le même temps, on peut pas tout garder.
On peut pas être sur tous les fronts, quoi.
Voilà,
entre guillemets,
et
qu'on
perd peut-être cette revendication, je dirais, très tonitruante. Voilà. Mais malgré tout, je considère malgré tout qu'il y a dans ce rapport à l'écoute quelque chose de révolutionnaire. Même si c'est pas une révolution, je dirais, de la chose neuve qui va apparaître soudainement et qu'on va ex nihilo, on va pas faire table rase, je dirais.
Ouais,
c'est une révolution, mais qui prend appui sur quelque chose d'incroyablement partagé qui est l'air qu'on respire et qui nous permet en plus d'écouter des sons.
Alors du coup, comme on le disait là tout à l'heure, c'est une expérience à vivre, c'est quelque chose à vivre. Il y a des rendez-vous tout proches, justement, pour inviter à la fois nos auditeurs et puis bien sûr tous les spectateurs qui auraient envie de découvrir et de s'immerger. Donc il y a déjà, dès demain, le 3 octobre, à l'atelier de l'Étoile à Besançon. Ensuite, il y a aussi à Bienne, alors là vous franchissez la frontière, on se retrouve en Suisse le 5 octobre. Et je crois que vous y êtes aussi, Tony, hein, c'est une collaboration à tous les deux. Puis le 10 octobre, alors là, on va retrouver plus le lien aussi avec le collectif Ishtar. On parlait de rencontres aussi avec le public. Alors là, c'est chez l'habitant, Eddy.
Oui, alors, avec le collectif Ishtar, on a lancé une petite programmation d'une série de 4 concerts chez l'habitant qui vont se dérouler entre octobre et février. Le premier sera donc le duo constitué de Nin Lequan et de Tony Di Napoli. Et on a profité de la venue de Nin pour organiser la conférence donc la veille, le 10 octobre.
Alors, le mercredi le 9 octobre.
Voilà, à 20h30. La conférence à 20h30 au Conservatoire. Donc
à l'espace Berlioz.
Voilà, c'est une coproduction Résonance Contemporaine Ishtar avec en partenaire le CRD de l'Ain.
Tout à fait.
Donc en Bresse.
Et puis encore un concert alors après qui suit le 12 octobre donc au festival Pérégrination à Léchère aussi également où là il y a encore d'autres complices donc Vincent Tolomé et Sébastien Dissonner au niveau de la poésie.
C'est un travail en fait que je vais faire avec ces deux auteurs.
Voilà. Voilà. Dans les informations que j'avais en tout cas.
Voilà. Et aussi un duo donc avec Nine et moi donc voilà.
Donc ça fait plusieurs rendez-vous justement là pour justement ce au regard de ce qu'on a essayé de partager aujourd'hui dans cette émission, d'essayer d'approcher un petit peu cette question et puis en même temps d'inviter aussi tous ceux et toutes celles à vraiment pas renoncer à ce plaisir mais au contraire à aller le vivre de plus en plus. Je voulais aussi rappeler qu'il y a également une tentative aussi de mettre en mots aussi tout ce que vous avez commencé à nous faire partager au travers de cette émission, les Quanines, dans une petite collection qui est fort pertinente d'ailleurs et qu'on apprécie bien ici, donc qui est la collection Entre Deux, qui est une initiative du centre de formation de musiciens intervenant en milieu scolaire et qui dépend de l'université de Lyon 2, avec Anne-Marie Bastien notamment. Et là donc il y a déjà un petit numéro 8 justement sur improviser librement et au travers d'un abécédaire d'une expérience et je trouvais que c'était il permet de, en tout cas j'invite tous les auditeurs à se le procurer parce que je trouve que c'est un bon complément à ce qu'on a essayé de dire aujourd'hui. Et puis donc nous allons pouvoir maintenant rejoindre la fin dans le sommaire de cette émission, la fin donc de ce moment sur la musique improvisation libre, et nous allons rejoindre maintenant l'un de nos correspondants cette fois-ci à Paris, Gérard Bonnefond, avec lequel nous débutons maintenant une rubrique que vous retrouverez au cours de chacune de nos émissions. Bonjour Gérard.
Bonjour Alain.
Et bienvenue donc dans cette émission. C'est un grand plaisir en tout cas de vous accueillir, de vous retrouver dans cette émission. Et puis cette rubrique va être un peu plus consacrée à Joseph d'Aquin, aliéniste, et qui est un des premiers à essayer de penser que la musique avait un effet bénéfique aussi pour le traitement des malades mentaux. C'est un petit peu ça aujourd'hui ce dont vous allez nous faire découvrir et partager, Gérard.
Tout à fait.
Alors, je vous laisse la parole.
Dans La philosophie de la folie, publiée en 1791, Joseph d'Aquin, médecin aliéniste à l'Hôtel Dieu de Chambéry, préconise une manière humaine de traiter les malades enfermés dans les asiles. Il est révolté par leurs conditions de vie et par leur renoncement à les soigner. Joseph d'Aquin propose une autre méthode qui privilégie le respect et la liberté. Alors, il faut laisser les malades circuler dans l'asile, les nourrir convenablement, leur proposer des activités physiques et du travail et s'adresser à leur raison. Cet ensemble forme ce que l'on nomme alors le traitement moral. Que nous dit Joseph d'Aquin ? Il faut presque sans cesse parler raison aux fous. Quand même, ils ne l'entendent pas, quoiqu'ils n'y font pas attention. Et qu'il continue à déraisonner à force de constance et de persévérance dans ce moyen, On réussit quelquefois à les ramener. Il est vrai que cela n'arrive pas toujours, mais j'ai plus d'une observation du succès de cette manière d'agir avec eux. La musique prend place dans l'arsenal thérapeutique. Et l'apaisement des malades est l'effet attendu, en particulier lors des crises furieuses. Joseph d'Aquin écrit « Personne n'ignore l'influence qu'a sur nous la musique, combien elle contribue à dissiper l'ennui, à chasser les affections les plus sombres de l'âme, à adoucir les mœurs et à exciter dans nos cœurs des mouvements qui se font apercevoir dans toute l'habitude du corps. Ne pourrait-on donc pas aussi l'employer comme un moyen auxiliaire au soulagement des fous? D'autant mieux qu'on a quelquefois observé que, si le hasard leur faisait entendre des chants ou le son de quelques instruments de musique, ils causaient sur leur sens une telle impression qu'elle les tirait de leur fureur, en les ramenant insensiblement à un état de calme et d'hilarité au-dessus de toute espérance. Quels inconvénients y aurait-il donc de procurer de temps en temps ce secours au moins à ceux qui sont furieux ou qui paraîtraient y prendre goût? Monsieur Balbeau, médecin à Chalon-sur-Marne, dit avoir fait revenir d'un violent accès de folie un malade que les bras de 5 à 6 hommes vigoureux pouvaient à peine contenir. Ce médecin savait par des liaisons particulières qu'il avait eu avec ce malade pendant longtemps, qu'il aimait chanter et à entendre chanter. Il fit venir des musiciens qui, pendant près d'une heure, exécutèrent sur le violon quelques-uns des airs qu'il aimait, le malade prêtant toute son attention tant que dura cette douce harmonie, mariait même sa voix au son des instruments. Une douce sérénité se peignit par degrés sur son visage et prit la place de la fureur dont tous ses muscles étaient agités. Joseph d'Aquin ne s'effraie guère des critiques à propos d'une pratique soignante, inusitée, qui pourrait être jugée extravagante. Il ne recule pas devant l'idée d'une salle de concert dans un hôpital de fous, qui annonce la réalisation des salles de spectacle dans les asiles. La musique instrumentale et le chant en soliste ou en formation réduite, au chevet du malade ou lors de concerts organisés dans l'asile, contribuent à se déconditionner de la maladie, à retrouver de la quiétude et contribue à la guérison. Joseph d'Aquin se place en première ligne des médecins qui, lors des conventions et des habitudes, vont renouveler le traitement des aliénés dans l'asile. La prochaine fois, je vous parlerai de Jean-Charles Desessard, médecin aliéniste, et de ses réflexions sur la musique considérée comme moyen curatif. Nous sommes alors en 1802. Merci.
Merci Gérard. Voilà, chers auditeurs, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des émissions, grâce à Gérard Bonnefond, revisiter justement un petit peu le chemin de ceux et de celles aussi qui se sont aventurés, en tout cas vis-à-vis de ces publics, soit à l'hôpital, soit dans le domaine du médico-social, mais en tout cas qui ont laissé petit à petit une présence de l'art ou qui ont pu constater, comme on l'a entendu auprès de Joseph d'Aquin, qui lui a commencé de sentir un peu ce qui se passait lorsque du coup on commence à porter un autre regard que celui simplement du malade, mais qu'il y avait un individu derrière le malade et que petit à petit, comme tout un chacun, il a ses modalités d'expression, il répond à d'autres choses et que là, tout un autre travail, toute une autre approche de la personne pouvait bien sûr s'envisager à partir de là. Donc ça va être un précieux fil conducteur, Gérard, en tout cas. Merci déjà pour ce premier épisode, on va dire ainsi, hein, en tout cas. Et puis donc à très bientôt pour un nouvel épisode, en tout cas. Hein ? Merci.
Au revoir.
Au revoir. Nous sommes au terme de cette émission. J'étais accompagné pour celle-ci de Gérard Bonnefond et de Simon Deborne à la technique. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, pour écouter Radio Tropique en direct ou en différé, ou podcaster cette émission, ou connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.tropicfm.org. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité, et à bientôt.